Bonjour et bienvenue dans Questions politiques et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invitée jusqu'à 13h, c'est la personnalité politique du moment, c'est elle que nous voulions entendre cette semaine. Elle occupe un poste clé au sein du gouvernement. Elle a sur son bureau quelques-uns des dossiers les plus importants du quinquennat d'Emmanuel Macron. On l'avait surnommée Madame Mobilité quand elle est arrivée au ministère des Transports, expression devenue obsolète puisqu'elle doit maintenant porter et aussi incarner la lutte contre l'accélération du réchauffement climatique, l'extinction des espèces ou la protection de la nature. Mais comment paraître crédible quand l'un de vos propres collègues ministres disait encore ce matin que depuis 2 ans, le gouvernement n'avait pas été convaincant sur l'environnement? Une heure pour revenir sur une actualité très chargée, pour l'interroger aussi sur ses convictions et l'idée qu'elle se fait de l'engagement écologique. Question politique est en direct avec la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, pour intervenir l'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Madame la Ministre, et nous le découvrirons ensemble dans quelques minutes avant de parler de l'actualité. Si la politique était aussi une question de climat, quel temps fait-il aujourd'hui en France ?
Bah, écoutez, je pense que on voit qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes, notamment en lien avec la réforme des retraites ou encore à l'hôpital. Et il faut prendre en compte ces inquiétudes. Il faut être très attentif à ce qui s'exprime. Et puis, il faut surtout apporter des réponses et des réponses dans le dialogue.
Donc nuageux, mais avec des possibilités d'éclaircies.
On va dire ça.
Dans l'actualité, Elisabeth Borne, il y a la polémique autour de cette marche contre l'islamophobie qui devrait avoir lieu dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Vous ne seriez pas ministre, est-ce que la femme de gauche que vous êtes, que vous étiez en tout cas, serait dans la rue pour manifester ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette marche. Évidemment, lutter contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme, on peut qu'être d'accord. Mais je pense que ça se voit bien dans l'appel qui est lancé avec cette marche. C'est aussi tomber peut-être dans l'opposition d'une partie de la population contre le reste. Et donc il y a beaucoup, je pense, d'ambiguïté et certainement je n'y serai pas.
Et le fait qu'on traite de loi liberticide la loi interdisant le port du foulard et des signes sensibles à l'école et la loi qui, à terme, interdit la burqa, c'est pas suffisant pour vous pour dire de ne pas y aller ? Pour se dire qu'il ne faut sûrement pas. Vous ne l'avez pas mentionné, est-ce que ça ne vous semble pas quelque chose d'incroyable, de considéré, des lois qui ont été adoptées par le Parlement, c'est-à-dire l'émanation des Français ?
Enfin, je vous dis, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'arrière-pensée, et y compris dans le fait de laisser entendre qu'il pourrait y avoir effectivement une stigmatisation d'une partie de la population, y compris par le législateur. Et évidemment, ça, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable aussi de penser qu'on va régler le problème de l'islamophobie en plaidant une forme de communautarisme.
Mais vous employez le mot islamophobie. Je
pense qu'il y a de l'antisémitisme, du racisme, de l'islamophobie dans le pays. Ça a toujours existé, malheureusement. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est tous se battre pour l'unité de la communauté nationale et pas dresser les uns contre les autres, comme le fait cette marche.
François Fréchose.
Justement, comment sortons de ce climat ? Est-ce que vous attendez une parole forte d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous estimez qu'elle a déjà été prononcée, cette parole ?
Je pense qu'il a eu l'occasion de s'exprimer, évidemment sur le fait qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale, sur le fait qu'il faut lutter contre le communautarisme et que ça suppose y compris d'être présent dans certains territoires de notre République où ce communautarisme peut avoir tendance à s'installer. Ensuite, voilà, moi j'entends ce qu'il appelle à s'exprimer sur la laïcité. Il l'a déjà fait et il le fera le cas échéant quand il jugera bon de le refaire.
Mais est-ce qu'il faut redéfinir certaines règles ? Parce que quand vous avez été la patronne de la RATP, vous avez abordé la question de la laïcité et de manière très didactique. Vous aviez repris des règles, vous aviez réénoncé des choses très claires pour que les choses soient très simples à appliquer. Est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'Emmanuel Macron, il aurait besoin de s'exprimer ? exprimé aussi clairement que ça.
D'abord, je pense que les règles sont très claires dans notre pays et ceux qui ne le pensent pas doivent relire nos lois sur la laïcité qui sont très claires, sur le fait qu'en France, on a le droit de croire ou de ne pas croire, qu'il y a des règles qui s'appliquent au service public dans lequel il est interdit de porter des signes religieux, il est interdit de se revendiquer d'une religion, et puis qu'il y a des libertés dans l'espace public de porter les signes qu'on veut. Dans les entreprises, je pense que c'est un enjeu important, et il faut y être effectivement très attentif. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais présidente de la RATP, pour dire aussi qu'il ne faut pas tomber dans la facilité, par exemple, accepter que des messieurs refusent de serrer la main des femmes. Ça n'est pas acceptable. C'est une forme de discrimination et toutes les formes de discrimination sont intolérables quand on est dans une entreprise comme quand on est dans la société.
Revenons au climat social, Elisabeth Borne, puisque beaucoup de choses se jouent autour de dossiers dont vous avez la responsabilité, de questions que vous connaissez bien. Françoise Fressoz.
Alors après Sudrail et l'UNSA ferroviaire, la CGT cheminot appelle à une grève reconductible à partir du 5 décembre à la SNCF contre le projet de réforme des retraites. Est-ce que vous prenez au sérieux cet appel à la grève et comment essayez-vous de désamorcer la situation ?
Alors, naturellement, on le prend au sérieux et moi je pense d'abord aux usagers qui ont besoin de trains pour se déplacer. Je pense que tous les agents du service public et notamment de la SNCF doivent aussi penser aux usagers. Quand on dit qu'on défend le service public, c'est normalement la première pensée qu'on doit avoir, ceux auxquels on doit rendre service tous les jours. Mais voyez, je pense que je peux
mais
aussi comprendre.
Le droit de grève existe
et il y a des règles qu'il faut respecter et il y a des règles qu'il faut respecter pour minimiser l'impact et la gêne causée aux usagers. Mais en l'occurrence sur les retraites, voyez, on est en train de mener un débat avec les Français. Il y a beaucoup de dialogues, en tout cas proposés aux organisations syndicales. S'agissant de la SNCF, Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, a reçu déjà des organisations syndicales, ou en tout cas celles qui veulent bien discuter. Et je regrette que la CGT n'en fasse pas partie. Et le dialogue doit se continuer. Aujourd'hui, différents scénarios sont sur la table. Le gouvernement, le président de la République ont dit très clairement qu'on pense qu'il est indispensable de faire cette réforme des retraites, mais qu'ensuite, plusieurs scénarios sont sur la table. Les modalités de transition doivent être discutées. Et moi, j'appelle chacun à se mettre autour de la table pour en parler, plutôt que de partir dans des mouvements de grève.
Mais est-ce que vous avez l'impression que ce soit aussi bien Sud que la CGT, vous venez de parler de la CGT, qu'ils maîtrisent les choses? On a vu l'affaire de Châtillon, qui est partie d'une certaine manière non contrôlée. On a vu l'histoire du droit de retrait quelques jours avant. Est-ce que vous avez l'impression que la situation est maîtrisable par vous, et y compris par les syndicats?
Écoutez, je pense que les syndicats, leur rôle, c'est d'être aux tables de discussion, de dialogue, et ensuite de relayer des messages vers les salariés. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'ils sont en train de faire.
Mais quel dialogue, Elisabeth Borne, considérant qu'il y aura suppression du statut spécial des cheminots? Ça, c'est une décision qui est prise, validée, qui est non négociable.
Oui, mais je vous confirme, quand on veut aller vers un système universel, ça veut dire par principe qu'il n'y a pas un maintien de 42 régimes spéciaux. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, et ça peut évidemment inquiéter les salariés qui bénéficient de régimes spéciaux, pour savoir vers quoi on va aller, aussi dans le sentiment qu'ils ont qu'il y a eu un contrat avec leur entreprise, qu'il faut en tenir compte. Mais le président de la République, le Premier ministre l'ont dit clairement, là, tout est sur la table, et il faut parler des modalités de transition, des dispositifs qui pourront être mis en place dans les entreprises pour prendre en compte les enjeux de pouvoir d'achat pour les futurs retraités. Donc tout ça se discute.
Alors, on va en parler tout ça, mais Karine, vous n'avez pas répondu à la question de Nathalie Sincré qui était très précise. Est-ce que les syndicats, vous les sentez débordés ou est-ce qu'ils soufflent sur les braises?
Enfin, il y a des mouvements comme celui que vous avez mentionné à Châtillon où peut-être qu'en effet, ils ont été débordés. Je pense que dans la réforme des retraites, enfin, c'est eux-mêmes qui, au lieu d'être à la table des négociations, sont plutôt en train de susciter le mouvement.
Françoise Fressoz.
Vous parlez beaucoup de la réforme des retraites, mais on sent aussi qu'il y a un malaise au sein de la SNCF en raison des réformes qui sont en train de venir, c'est-à-dire le changement de statut, la mise en concurrence. Est-ce que vous craignez que, au fond, la coalition entre ces réformes internes et la réforme des retraites puisse aboutir à un mouvement extrêmement puissant de remise en cause générale de cette réforme de la SNCF ?
Elisabeth Moi, je Borne. Suis consciente qu'il y a des réformes très profondes, et c'est bien ce qu'on a voulu, pour sauver le service public ferroviaire. Il fallait faire des réformes très profondes. Donc, il y a sans doute de l'inquiétude parmi les cheminots. Et vous savez, Jean-Pierre Farandou, qui vient d'arriver à la tête de la SNCF, en est également conscient. Il prend des initiatives, il en a déjà prises. Et il va continuer à en prendre pour que vraiment le dialogue social soit, enfin, donne toute sa mesure et pour pouvoir avoir les échanges qui sont nécessaires avec les cheminots sur ce qui peut susciter des inquiétudes aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez comprendre aussi qu'un certain nombre d'usagers, même s'ils sont énervés quand il y a des trains qui sautent ou quand les choses se passent mal, sont aussi tétanisés par l'idée qu'on peut plus parler à un humain, acheter un billet dans une borne quelque part, que les gens qui sont loin, qui ne sont pas parisiens forcément, ne sont plus en contact avec un cadre ou un employé de la SNCF pour pouvoir acheter leur billet. Est-ce que cette espèce de déshumanisation totale, qui est dénoncée par les syndicats en disant on a enlevé tellement de gens qu'il n'y a plus... Est-ce que ça, vous le comprenez, peut-être les choses sont allées trop vite et que l'État a été trop dur vis-à-vis de la SNCF en termes d'économie?
Enfin, je ne sais pas si l'État a été trop dur. Je pense qu'effectivement, on l'a vu l'été dernier, on avait des queues très longues au guichet et... Je pense que là encore, Jean-Pierre Farandou l'a dit, il faut certainement remettre aussi des agents au guichet pour répondre aux besoins de ceux qui veulent acheter des billets. Tout le monde n'achète pas son billet sur Internet ou par téléphone.
Karine Becker.
Quand on observe ce qui se passe malgré tout, est-ce que le gouvernement n'a pas été un petit peu présomptueux? Est-ce qu'on peut faire la réforme que vous avez fait l'an passé sur la mise en concurrence de la SNCF et finalement, quelques mois après, tout juste, faire cette réforme de leur régime spécial? Est-ce que c'est pas trop vite? Est-ce que cette grande entreprise, 155 000 salariés, est capable d'absorber ça finalement?
Enfin, moi je vous le dis, et j'ai encore échangé vendredi dernier avec Jean-Pierre Farandou, je suis consciente qu'il y a eu beaucoup de réformes à la SNCF. Il y a celles qui sont portées par le gouvernement, notamment la réforme ferroviaire. Il y a aussi des évolutions en interne, des réorganisations par activité. Et effectivement, c'est beaucoup de réformes, et ça suppose qu'il y ait beaucoup de dialogue social dans l'entreprise, et ça suppose aussi, sur la mise en œuvre de la réforme des retraites, qu'on soit attentif à garder l'objectif de cette réforme. Ça, clairement, le président de la République et le Premier ministre
l'ont dit. Oui, mais justement, peut-être qu'il y a un problème de clarté. Ça suppose que le gouvernement soit clair, puisque quand on parle de la réforme des retraites, beaucoup n'y comprennent rien. Il y a la clause du grand-père, qu'on a vu réapparaître dans le débat public il y a quelques jours. Françoise Fressoz, Nathalie Saint-Cric.
Alors, pour que ce soit clair, la clause du grand-père, ça consiste à appliquer la réforme des retraites uniquement aux nouveaux entrants. Donc, pour pas remettre en cause le contrat avec l'entreprise dont vous parliez. Est-ce que vous y êtes favorable à cette clause?
Enfin, c'est pas moi qui vais me prononcer maintenant. On a voulu mettre tous les scénarios. On a voulu mettre, pas parce que c'est, enfin, vous voyez, quand on fait de la concertation, c'est pas pour décider avant la fin de la concertation. Tous les scénarios sont sur la table. Il y a celui-là. Vous avez vu que Laurent Berger a dit, mais non, si on fait ça, la réforme va mettre beaucoup trop de temps. Donc, écoutons les uns.
Jean-Paul Delevoye aussi.
Écoutons les uns et les autres et trouvons le bon rythme pour que cette réforme soit menée à bien et qu'on tienne compte des transitions qui sont nécessaires. Le président de la République l'a dit, quand vous êtes à 5 ans de la retraite, par exemple, que vous avez un contrat avec votre entreprise, ben, la réforme ne doit pas nécessairement s'appliquer à vous. Et donc, c'est ce curseur, ces équilibres qu'il faut discuter. Pour discuter, il faut que les syndicats viennent à la table de discussion.
Françoise, encore deux questions avant de passer à votre portrait.
Les usagers se demandent au fond si vous êtes en état de faire un dispositif qui garantisse la circulation minimum des trains le 5 décembre et après, des trains et des métros. Est-ce que vous pouvez vous engager et est-ce que vous avez les moyens d'instaurer un service minimum garanti?
Elisabeth Borne.
Alors, il y a un service minimum au sens où les salariés doivent se déclarer et qu'on ça permet à l'entreprise d'organiser au mieux le service. Par ailleurs, on travaille sur des solutions de substitution. Donc, on est évidemment attentif à ce que les Français soient pas mis en difficulté. Et c'est aussi un appel à la responsabilité pour les salariés, pour qu'ils aient en tête qu'ils sont un grand service public et qu'ils doivent aussi répondre aux besoins des Français.
Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, Elisabeth Borne, de répondre aujourd'hui à une question qui paraît relativement simple? Qui seront les gagnants et les perdants de la réforme des retraites?
Enfin, a priori, on ne va pas considérer qu'il doit y avoir obligatoirement.
Ah ben, il y aura forcément des perdants.
Il doit y avoir obligatoirement des perdants. Et c'est une question de rythme de mise en œuvre de la réforme. Vous savez, ça veut dire que ça renvoie à des principes de rémunération. Les principes de rémunération dans ces entreprises, ils ont aussi été conçus justement par rapport à un régime de retraite qui était calculé sur les 6 derniers mois. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres qui doivent bouger pour que la situation soit...
Ça veut dire qu'il faut augmenter, par exemple, les employés de la SNCF, puisqu'ils toucheront moins quand ils partiront à la retraite ?
C'est la philosophie même d'un système de rémunération. Vous acceptez au départ d'être moins payé parce qu'ensuite, vous avez une progression linéaire et que vous terminez très haut, y compris par rapport aux salariés du privé. Donc c'est toute cette réflexion sur la rémunération qui doit aussi être menée.
Et juste cette clause du grand-père, ça s'applique pour tout le monde ou juste effectivement pour les régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF, que ça soit?
C'est bien le débat dans lequel on est aujourd'hui. Quelles sont les règles générales? Quelles sont les transitions pour tous les Français et pour les salariés des régimes spéciaux? Donc vous voyez que c'est un sujet qui mérite de poursuivre la discussion et les concertations.
Est-ce que vous trouvez ça injuste en fait comme proposition, vous? Parce que Jean-Paul Delevoye a laissé entendre que ça faisait peser effectivement cette réforme des retraites sur les générations futures. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'injustice en fait, que ça désavantage...
Je pense que la justice et l'injustice, ça dépend vraiment du point de vue qu'on adopte. Ce que je pense, c'est qu'on doit aller vers un système universel qui est beaucoup plus juste que le système actuel. Vous avez des différences très importantes selon l'entreprise à laquelle vous appartenez et qu'il faut ensuite trouver les bonnes transitions, les bonnes dispositions au sein des entreprises, effectivement pour que ça soit pas une bagarre entre les gagnants et les perdants.
Midi 20, la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne est l'invitée de Questions politiques.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Votre portrait, Madame la ministre Elisabeth Borne, signé Karine Bécard.
Vous n'avez, semble-t-il, absolument pas hésité à devenir, en juillet dernier, la nouvelle ministre de la Transition écologique. Troisième nomination, tout de même, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Autrement dit, troisième ministre de l'écologie en seulement 2 ans et demi. En fait, François de Rugy venait de démissionner. Il fallait sortir au plus vite de cette situation compliquée. Et vous, Elisabeth Borne, l'ancienne préfète que vous avez été, avez toujours eu le sens de l'État comme le sens des responsabilités, donc vous y êtes allée. Seulement 4 mois après votre installation, on ne sait toujours pas, écologiquement parlant, quelles sont vos convictions. Alors il faut rappeler que jusqu'ici, c'était bien plus les transports qui vous avaient intéressé, les rails en particulier. D'abord, la SNCF, on vous confie à 41 ans la direction de toute la stratégie. Ensuite, la RATP. Vous êtes à 54 ans, la deuxième femme à être nommée pour la diriger. Ce qui signifie que quand le président et son premier ministre, Édouard Philippe, vous choisissent, vous, la diplômée de Polytechnique, eh bien vous entrez impeccablement dans ce gouvernement d'experts tel qu'il avait été théorisé. Et vous apparaissez au ministère des Transports comme la plus capée pour affronter la SNCF et oser la réformer.
Je pense d'abord aux usagers qui sont aujourd'hui très pénalisés, ceux qui prennent le train tous les matins pour aller au travail, qui ont été pénalisés ce matin et qui seront de nouveau pénalisés ce soir.
Avec votre réforme de la SNCF, vous avez porté, Elisabeth Borne, ce qui restera probablement comme l'un des actes les plus emblématiques de ce gouvernement. Or, personne n'a retenu que c'était vous qui l'aviez défendu, pas assez charismatique, incontestablement. Vous êtes une ministre technique, parfois colérique, mais absolument pas politique. Alors que pourtant, une grande partie de votre carrière s'est jouée dans les ministères socialistes. Systématiquement, vous avez conseillé Jack Lang, Lionel Jospin pendant 5 ans quand il est chef du gouvernement, Bertrand Delanoë aussi, cette fois à la mairie de Paris, et même Ségolène Royal plus récemment quand elle retourne au ministère de l'Environnement. Finalement, vous êtes restée cette haut fonctionnaire, Elisabeth Borne, très mesurée, presque corsetée, qui préfère rester derrière. Mais vous êtes aujourd'hui la ministre de l'urgence climatique et c'est forcément devant que tout le monde vous attend.
Réaction, Elisabeth Borne?
Écoutez, je pense que vous dites que c'est par devoir que j'ai pris ce poste. C'est aussi avec beaucoup d'enthousiasme parce que je suis vraiment convaincue que ce combat pour la transition écologique, c'est le combat du siècle. Que c'est un combat compliqué parce que ça suppose de changer nos comportements très profondément. Ça suppose à la fois des actions rapides, mais ça suppose aussi d'engager des transformations très profondes de notre façon de consommer, de se déplacer, de produire, de notre agriculture. Et donc, voilà, c'est...
Vous sentez l'âme d'une écologiste ?
Je pense que vous savez, les temps ont changé et il n'y a pas un monopole de quelques-uns sur l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, faudrait être sourd et aveugle pour pas voir l'urgence écologique, pour pas voir l'impérieuse nécessité de transformer profondément notre société. Et donc voilà, c'est un combat qui est à la fois compliqué parce que vous venez percuter des habitudes, et c'est un combat qui est en même temps enthousiasmant parce que moi je suis convaincue qu'on a un chemin pour réussir cette transition écologique.
Vous espérez convaincre alors que votre collègue Gabriel Attal déclarait ce matin que l'écologie c'était justement le sujet sur lequel le gouvernement avait été le moins convaincant depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Je pense qu'on a fait des choses. Hein. Il faut rappeler qu'on est le premier pays à inscrire la neutralité carbone dans la loi,
on va y venir.
Les centrales à charbon. Je pense qu'il y a une question aussi de visibilité de cette action. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire rentrer l'écologie dans le cœur du débat. Et c'est bien ce que doit faire l'acte 2 du quinquennat. Et c'est bien ce que je veux faire.
Donc, Gabriel Attal a raison.
Gabriel Attal a nécessairement raison sur le fait que notre engagement écologique n'a pas été suffisamment visible, sans doute suffisamment convaincant, qu'il faut accélérer, qu'il faut considérer que l'écologie, vous savez, c'est l'affaire de tout le monde. C'est toutes nos politiques publiques qui doivent prendre en compte l'enjeu écologique, et c'est par exemple le sens du Conseil de défense écologique qui réunit les ministres autour du président de la République pour porter cette écologie qui doit irriguer toutes nos politiques publiques.
Françoise Fressoz.
Mais comment vous essayez-vous de remplacer Nicolas Hulot alors qu'il avait une surface médiatique aussi importante ? Est-ce qu'au fond, tous ceux qui lui succèdent ne sont pas condamnés à une part d'ombre parce qu'ils n'ont pas son passé et son charisme ? Est-ce que ça vous pose une question personnelle ?
Mon sujet, ce n'est pas spécifiquement d'être aussi médiatique que Nicolas Hulot. Je pourrais faire des déclarations fracassantes. C'est pas mon tempérament, vous l'aurez compris. Mon sujet, c'est de convaincre par les actes, par les réalisations, sur notre capacité à avoir des actions très concrètes, par exemple le bio dans les cantines parce qu'il faut changer notre façon de nous alimenter, le développement du vélo. Je crois que vous savez, moi je portais ça depuis le début du quinquennat, ça faisait rigoler les gens. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que c'est un vrai changement dans notre façon de se déplacer, qu'il faut accompagner les Français pour changer leur chaudière. Quand on a une vieille chaudière dans un logement mal isolé, c'est non seulement un enjeu pour des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est un enjeu de qualité de vie, c'est un enjeu de pouvoir d'achat. Donc il faut à la fois des actes très concrets et il faut en même temps engager des transformations profondes de nos modèles de production. Et c'est à ça que moi je souhaite vraiment m'atteler.
Nathalie Saint-Cricq.
Il y a un sujet peut-être, alors on va revenir après à l'écologie, qui peut-être enthousiasme beaucoup les jeunes. On voit la jeune Greta Thunberg plaider pour le climat, mais la cause animale c'est quelque chose qui passionne aussi les jeunes. Là-dessus on a l'impression qu'il ne se passe strictement rien. On a fait des permis de chasse qui sont à 50%, ça c'est le lobby des chasseurs qui a gagné. Il y a un certain nombre d'espèces, il y en a 64 qui ont le droit d'être chassées, plus en France que dans les autres pays européens, on est autour de 20 ou 30. Dont la chasse à la glu. Rien ne se passe du côté du bien-être animal. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui pourrait permettre d'incarner une vision de l'écologie, qu'on soit pas simplement dans les chaudières et le retraitement des déchets, qui est très important, mais il se passe quelque chose chez les jeunes
et la préservation
pas.
De la biodiversité.
Je parle pas de la corrida, je parle pas de la chasse à glu.
Évidemment,
et du bien-être,
le bien-être animal, je pense que c'est un enjeu majeur de société. Moi, je suis en train de mener beaucoup de concertations avec les responsables des cirques, avec ceux qui ont des delphinariums, avec ceux qui élèvent des visons. Je pense qu'il faut poser des actes forts sur le bien-être animal dans les domaines qui sont de mon ministère. Donc, c'est
les animaux sauvages.
J'ai été nommé il y a 3 mois.
Mais vous êtes passé complètement à côté.
Je vous remercie,
le gouvernement est passé.
A priori, je pense qu'on accélère sur tout, mais ça fait 3 mois que je suis dans ces fonctions. J'ai repris la concertation qui avait été engagée par François de Rugy, et dans les prochaines semaines, on annoncera un plan sur le bien-être animal. Pour ce qui relève de mon ministère, c'est la faune sauvage.
Mais le gouvernement avait eu une fenêtre extraordinaire au moment de la loi Egalim pour essayer de faire avancer un petit peu ce bien-être animal et notamment des animaux de ferme. Rien ne s'est fait. Enfin, je veux dire, vous avez une opportunité que vous n'avez pas saisie sur ces poules qui pouvaient être élevées en plein air et vous avez continué à accepter qu'elles soient élevées en batterie. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Pourquoi à ce moment-là vous n'avez pas saisi en fait C'était la première année du quinquennat.
Elisabeth Borne.
Didier Guillaume, pour ce qui le concerne, travaille aussi sur ces sujets.
Enfin,
moi, je peux vous dire que je suis là depuis 3 mois, que ce dossier, je l'ai pris dès mon arrivée et qu'on aura des annonces fortes je pense, dans les prochaines semaines sur le bien-être des animaux sauvages.
Mais pourquoi ne parler que des animaux sauvages? Puisque vous êtes ministre de l'écologie, vous savez que l'avenir de notre planète se joue aussi dans notre assiette, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent. On sait que l'élevage est une cause majeure du dérèglement climatique. Vous pourriez dire, par exemple, qu'il faut manger moins de viande, par exemple, qu'il faut encourager les journées sans viande dans les cantines scolaires, qu'il faut effectivement se préoccuper de la condition de vie, ou plutôt de survie, ou je ne sais même pas comment appeler ça, d'un nombre ahurissant d'animaux dans des élevages où ils sont soumis à des conditions monstrueuses, les conditions d'abattage également. C'est aussi le sujet de la ministre de l'écologie, Elisabeth Borne.
Alors, qu'il faille manger moins de viande, c'est bien ce qu'on dit, et c'est bien pour ça qu'on veut une journée sans viande dans toutes les restaurations collectives, dans toutes les cantines. Ensuite, évidemment, moi je me préoccupe du bien-être de tous les animaux. Je vous dis simplement que les décisions, elles relèvent dans certains cas de mon ministère et dans le cas du ministère de l'Agriculture. Ça ne veut pas dire
que je m'en désintéresse. Donc c'est lui qui a le dernier mot sur les questions qui concernent l'élevage.
Je m'en désintéresse. Et je pense aussi, vous voyez, qu'au travers de ce que vous évoquez, c'est aussi une question de modèle agricole, hein, dans lequel je pense que les animaux, ils sont mieux, et je pense que beaucoup d'agriculteurs seront d'accord, ils sont mieux quand ils ne sont pas en batterie, ils sont mieux quand ils sont aussi dans les champs. Mais c'est toute la transformation d'un modèle agricole qu'on a tiré dans le mauvais sens pendant des années, et sur lequel aujourd'hui, il faut revenir à des pratiques d'une agriculture plus durable et plus responsable.
Mais puisque vous parlez de la biodiversité, est-ce qu'il faut, deux questions très simples, est-ce qu'il faut cesser d'importer de l'huile de palme, d'Indonésie notamment, dont on sait que ça cause des ravages dans la biodiversité?
En tout cas, les parlementaires ont voté l'an dernier...
Question simple à la ministre de l'Écologie.
Oui, mais bien sûr qu'il faut arrêter les importations de tous les produits issus de la déforestation. On ne peut pas se préoccuper des forêts chez nous et importer des produits issus de la déforestation. Ensuite, ça vaut pour le soja issu de la déforestation.
Donc il faut cesser d'importer de l'huile de palme d'Indonésie, il faut cesser d'importer du soja brésilien dont on sait qu'il est largement en cause dans la déforestation de l'Amazonie.
Moi je vous confirme, et le président de la République a eu l'occasion de le dire à l'occasion du G7, ensuite c'est une question de rythme.
Françoise Fraisseuse.
150 citoyens tirés au sort planchent actuellement sur la transition écologique. La décision a été prise après le mouvement des Gilets jaunes, et l'un des enjeux, c'est savoir si les citoyens peuvent résoudre ce que vous n'avez pas résolu, c'est-à-dire faire une taxe carbone qui soit socialement juste. Est-ce que vous pouvez nous parler des travaux en cours? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous attendez des décisions précises? Et est-ce qu'il pourrait y avoir un référendum à l'issue de cette consultation à partir des propositions de la Convention citoyenne?
D'abord, je pense que c'est important de rappeler qu'on a effectivement cette Convention citoyenne dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé. On a 150 Français qui ont accepté de venir 6 week-ends pour travailler sur, proposer un chemin pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et on ne va pas les enfermer dans la taxe carbone. C'est beaucoup plus large que ça. C'est comment on veut consommer demain, se déplacer, habiter, produire.
Le premier sujet,
donc,
c'était
ils sont
la taxe
en train. Enfin, c'est un des sujets qui est posé. Notre objectif, c'est comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris. Moi, je voudrais saluer, en fait, l'engagement de ces citoyens. C'est pas banal, hein, de sacrifier 6 fois son week-end pour venir travailler sur ces sujets. Je peux vous dire qu'ils sont extrêmement engagés, extrêmement conscients de l'importance du travail qu'ils font. Non seulement ils travaillent le week-end, mais pendant les intercessions, si on peut dire, ils sont aussi en train de se renseigner, de consulter. Et moi, j'ai vraiment confiance dans le fait que cette convention, elle nous permettra de trouver les bonnes réponses, celles qui permettent d'agir maintenant et de le faire, non pas avec une décision qui viendrait d'en haut, mais avec des propositions qui sont issues des citoyens.
L'idée du référendum, ça vous paraît une possibilité si jamais les propositions vous paraissent...
Mais je vous confirme que ces propositions, il ne s'agit pas simplement de dire merci, on range le rapport, il faut qu'elles se mettent en œuvre. Et selon la nature des propositions, peut-être ça sera simplement des décrets, des textes réglementaires. Ça peut être aussi des lois qui seront proposées au Parlement, mais ça peut aussi être un référendum sur des sujets qui concernent tous les Français.
Nathalie Zacric.
Est-ce que ne croyez-vous pas que sur certains domaines, cela peut sembler un petit peu démagogique? Quand on voit les choix qu'il doit y faire en matière de nucléaire, quand on voit la complexité du dossier sur l'EPR, est-ce que c'est raisonnable de penser que ça peut être réglé dans une commission avec des citoyens et que c'est le bon lieu pour faire les choix? Première question. Et deuxièmement, vous avez parlez vous-même des engagements pour 2050. Est-ce que vous y croyez avec une baisse dans le mix du nucléaire de plus en plus importante, ou est-ce qu'il ne faut pas supporter notre taux de nucléaire de manière à faire baisser les gaz à effet de serre?
Enfin, on n'a pas demandé, aux citoyens de s'occuper de tous les sujets, y compris comment faire fonctionner le PR de Flamanville. Hein. On leur a demandé comment on peut atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre.
Il se trouve que ça rentre dedans quand même, le choix sur le nucléaire.
Enfin, il y a une réflexion.
Parce que si c'est juste faire du vélo, enfin, c'est, vous voyez, c'est moins.
Non, mais attendez, la trajectoire.
Critiquez pas les cyclistes, Nathalie. Il y en a quelques-uns, quelques-unes autour de cette table.
La trajectoire sur ce qu'on appelle le mix énergétique, ouais. C'est-à-dire comment on produit l'électricité en France. On leur demande pas de nous dire comment il faut faire. On a dit qu'on voulait ramener la part du nucléaire à 50% en 2035. Donc ça, c'est un point qui est acquis. Et puis, on travaille sur des scénarios pour voir comment on va le faire. Mais vraiment, les sujets dont ils doivent s'emparer, c'est des sujets qui sont ceux qui concernent tous les Français, je vous dis, consommer, se loger, se déplacer, et je pense que c'est essentiel de le faire avec les Français.
Restons dans le nucléaire. Est-ce que vous confirmez la très possible construction de 6 nouvelles centrales en France?
Alors, je
dans
vous redis que c'est un des scénarios. Donc, moi, je note que tous les documents qui sont produits par EDF se retrouvent dans le journal.
Non, mais c'est un scénario qui vous
c'est
intéresse.
C'est un scénario. Attendez. Moi, mon objectif, c'est, je vous dis, ce qui est dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, réduire la part du nucléaire à 50% en 2035. Ensuite, au-delà, on doit avoir tous les scénarios sur la table avec un objectif qui est d'assurer pour tous les Français, pour nos entreprises, une électricité à un coût abordable partout.
Alors, vous lisez le journal Le Monde, Elisabeth Borne, Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, justement, qui était interrogé par Le Monde il y a quelques jours, disait la chose suivante. Personne ne pense qu'on puisse assurer l'avenir sur le plan du système énergétique uniquement avec des renouvelables et du stockage. Donc, il faudra de nouvelles centrales nucléaires. Nous nous y préparons, c'est simplement la réalité industrielle. Il a au moins le mérite de la clarté, il dit les choses très simplement.
D'accord, c'est très bien qu'il ait son point de vue, que je ne partage pas. Il se trouve que la politique énergétique, c'est plutôt le gouvernement, et en particulier la ministre en charge de l'énergie que je suis, qui doit la définir. D'accord. Et je vous confirme qu'on étudie à la fois des scénarios dans lesquels on continue à faire des nouvelles centrales nucléaires et aussi un scénario 100% renouvelable. Tous ces éléments, c'est des sujets compliqués, comme vous le soulignez, et on doit avoir tous les éléments pour sur la table mi-2021. Ensuite, on a dit qu'on ne prendrait pas de décision sur des nouvelles centrales nucléaires avant la mise en service de Flamanville.
Le patron d'EDF parle au futur. Il n'utilise pas
le conditionnel
et il n'imagine pas qu'il y ait d'autres scénarios que celui-là. Nous nous y préparons. Il faudra de nouvelles centrales nucléaires.
Je l'invite à intégrer ce scénario sur lequel travaille le gouvernement, 100% non renouvelable, et y compris, je pense, indispensable que EDF réfléchisse aussi à la façon dont il peut être un grand acteur dans un tel scénario.
Mais le 100% attendez, renouvelable, ce serait...
Ça veut dire que vous êtes partisan de ce dernier scénario que vous évoquez, 100% renouvelable, ou est-ce que vous dites, 6 réacteurs nucléaires, c'est trop important, il faut réduire un peu la voilure?
Il n'y a pas de décision de prise aujourd'hui, parce que... Certains vous défendent le fait que ça n'est pas
possible. C'est une décision qui est prise, oui, la plupart des sujets.
Mais votre avis à vous, votre vision personnelle...
Qu'est-ce que vous allez défendre, en fait, autour de la table du Conseil des ministres, par exemple?
On n'a pas les éléments. Enfin, on pourrait prendre des décisions sans avoir fait des études, mais je pense que c'est peut-être un peu... Enfin, voilà, ça peut paraître un petit peu
langue
technique.
Langue de bois
Langue
de bois, Elisabeth Borne.
Non, mais c'est...
On manque d'éléments pour juger de la stratégie énergétique de la France. Très sincèrement, la question du nucléaire n'a pas été suffisamment étudiée. La question pour penser l'avenir énergétique de la France, cet avenir n'a pas été pensé, réfléchi, documenté.
Ce qui n'a pas été suffisamment étudié, je vous confirme qu'il y a eu beaucoup de scénarios étudiés avec du nucléaire. Ce qui n'a pas été suffisamment étudié, c'est des scénarios 100% renouvelables.
Mais ça paraît inimaginable, en fait. On part de tellement bas. Ce serait sur quelle échéance, en fait, du 100% renouvelable?
Ça paraît inimaginable. Enfin, on n'est pas les seuls à étudier ce genre de scénario. Hein. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de pays autour de nous qui ont arrêté le nucléaire et qui, pour autant, n'ont pas envie de fonctionner pendant des décennies avec des énergies fossiles.
Mais ils ont pris de l'avance.
Donc ça veut dire que c'est un scénario que beaucoup de pays doivent étudier et que nous étudions avec l'Agence internationale de l'énergie. Et on souhaite avoir les éléments mi-2021 parce que ça n'est pas des sujets totalement triviaux.
François il y a Spressose. Aussi, derrière le débat nucléaire, il y a aussi, au fond, une filière française qui a été une filière d'excellence et qui perd un peu de son savoir-faire parce que, justement, le rythme s'est ralenti. Est-ce que vous dites qu'il faut quand même sauver la filière nucléaire en France ?
Elisabeth Borne.
Qui a perdu un certain nombre de compétences pendant le même temps, il y avait quand même à entretenir les centrales, et c'est l'occasion aussi de montrer son excellence. Vous voyez, donc, je suis pas sûr qu'il faille accepter l'idée que c'est parce qu'on n'a pas construit de nouvelles centrales nucléaires que la filière peut avoir perdu de sa performance. Donc moi, j'invite tout le monde à s'occuper déjà d'entretenir le parc actuel, de le faire au mieux, et ne pas nous dire qu'il est indispensable de lancer tout de suite maintenant des nouvelles centrales. On a des investissements très importants à faire pour maintenir en bon état, et je pense que chacun peut être attaché à ce qu'on maintienne nos centrales nucléaires en bon état. On voit que c'est des enjeux importants. Donc, travaillons sur l'excellence de cette filière.
Et que tout le monde ait les idées claires, vous ne vous préparez pas à construire de nouvelles centrales nucléaires.
Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un choix à faire.
Ah bah non, mais
j'ai
dit qu'il y a un choix à faire, Elisabeth Borne.
Mais je pourrais vous annoncer les décisions quand elles sont pas prises.
Quand on entend le patron d'EDF dire oui, on s'y prépare et que vous nous dites on ne sait pas.
C'est un choix politique. C'est pas la peine.
Bah oui.
Il y a effectivement.
C'est un choix politique.
Par rapport aux écologistes, enfin, on peut dire aussi, s'il y a le mieux pour la France, mais on sait très bien que si on regardait les choses, je suis pas une spécialiste du tout, mais que dire le 100% renouvelable, ça fait, enfin, je veux dire, on se dit que c'est bien dans 3022, enfin, que
non,
ça marchera.
Non, c'est pas 3022, c'est pas 2022.
Et sur la dangerosité du nucléaire ou sur les choix, on essaie juste de savoir quelle est votre intuition, enfin pas votre intuition, ce que vous préférez, parce que les choix doivent être faits assez rapidement, notamment en termes d'investissement, comme le dit le patron d'EDF.
Elisabeth Borne.
Donc moi je vous redis que je pense que l'énergie nucléaire, vous savez, bon d'abord ça n'émet pas de gaz à effet de serre, donc ça c'est un plus, ça produit des déchets qu'on a pour des centaines de milliers d'années, donc ça c'est un moins. Et ensuite on a un sujet d'être capable de répondre aux besoins des Français, aux besoins des entreprises
vite,
à un coût compétitif. Aujourd'hui on fait des éoliennes qui fournissent de l'électricité à 50 euros du mégawattheure. Alors si les gens ne veulent pas d'éoliennes, pas de photovoltaïque et pas de nucléaire, et pas de charbon, j'imagine, on va avoir une difficulté.
Non, vous voyez, mais il se trouve que c'est votre gouvernement, la majorité présidentielle, qui s'était engagée dans une loi énergie et climat qui ne date pas d'il y a 100 ans, elle date de septembre 2018, à rabaisser sa production nucléaire à 50% d'ici 2035. Ça implique, dans ce scénario-là, qui a été voté par la représentation nationale, un certain nombre de choix que vous ne pouvez pas
aujourd'hui. Les choix, ils sont faits. 50% de nucléaire.
Ah bah, si on diminue la production du nucléaire d'ici 2035, ça veut dire qu'on ne construit pas six nouvelles centrales nucléaires.
C'est moins simple que ça, je suis désolée. Oui, c'est moins simple que ça, ça avait l'air très simple jusqu'à présent, parce que ça dépend aussi du nombre de réacteurs qu'on arrête. Et en tout cas, ce qui est très clair, et ça, pour le coup, je pense qu'on peut tous être d'accord, c'est qu'il faut développer massivement les énergies renouvelables, qu'il faut trouver leurs conditions d'acceptabilité, parce que si plus personne ne veut d'éolien, ça sera aussi un problème, qu'on peut aussi développer le photovoltaïque. C'est aussi pour ça qu'on a annoncé qu'on allait mobiliser des friches du ministère des Armées pour faire des champs photovoltaïque dont on a besoin. Donc il faut très clairement, ça j'ai aucun doute, développer les énergies
donc
renouvelables.
Il faut des
encore une question, encore
neuves,
une question sur le sujet
en fait,
et
on est en train
change
de
dossier.
D'enfermer d'autres, c'est ça qui est en train de se passer. Si on a 6 nouvelles centrales nucléaires éventuellement, c'est parce qu'on va fermer un certain nombre de réacteurs.
Vous savez, il y a beaucoup de nos centrales qui ont 40 ans, qui auront bientôt 50 ans, et donc du coup, jusqu'où on prolonge les centrales existantes, est-ce qu'il en faut des nouvelles? C'est un sujet qui doit être instruit pour mi-2021. Et donc, je suis désolé, quand c'est instruit pour mi-2021, je ne vous donnerai pas la réponse maintenant.
Les États-Unis ont formellement notifié ce lundi à l'ONU qu'ils sortaient de l'accord de Paris sur le climat quand on pense que c'est la première économie mondiale, que c'est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il ne faut pas dire là aussi très clairement qu'aujourd'hui, les accords de Paris sur le climat sont caducs?
Alors absolument pas. D'abord, je pense que c'est un choix qui est à contresens de l'histoire. Vous savez que moi j'étais avec le président de la République en Chine en début de semaine et qu'avec la Chine, l'Union européenne, on réaffirme avec force que l'accord de Paris est irréversible. Donc le monsieur Trump, c'est
enfin,
pas tous les États-Unis,
il est irréversible. Ce sont les États-Unis, Elisabeth Borne.
Il est irréversible et monsieur Trump, c'est pas tous les États-Unis, il y a déjà 22 États par exemple qui ont contesté la décision de Donald Trump sur les émissions de gaz à effet de serre des voitures. Et donc, moi, je pense que le sens de l'histoire, c'est évidemment l'accord de Paris. De toute façon, c'est indispensable pour la survie de la planète.
Même
et
on sans va la principale économie mondiale.
Monsieur Trump ne fait pas toute l'économie des États-Unis, fort heureusement. Et donc, en tout cas, on avance résolument. Vous savez, c'est aussi pour ça que dès l'annonce de Donald Trump en 2017, le président Macron avait dit « on continue ». Tous les autres continuent.
Mais le président de la République a parlé de choix marginaux après la décision de Donald Trump. Ce n'est pas un choix marginal, vous pouvez le reconnaître.
Ça n'embarque pas tous les États-Unis. Il y a heureusement déjà 22 États qui contestent les décisions de Trump sur les voitures. Il y a aussi beaucoup de villes qui s'engagent, il y a des entreprises qui s'engagent. Et l'Europe, la Chine veulent faire de l'accord de Paris un accord irréversible, rehausser notre ambition. On a des échéances très importantes l'an prochain avec la COP26 qui succède à la COP21 et on est déterminé plus que jamais à mettre en œuvre l'accord de Paris.
Françoise Fressoz.
Vous dites que l'ambition reste très forte, mais au fond, il y a un problème de réalisation, c'est-à-dire sans les États-Unis, vous ne pouvez pas tenir vos objectifs. Donc, à quel moment vous estimez que la bascule peut vraiment réellement se faire? Qui faut-il convaincre? Est-ce qu'il faut convaincre les États, les investisseurs? À partir de quel moment pensez, oui, il peut y avoir vraiment un basculement de l'économie vers une transition écologique qui soit vraiment réelle.
Elisabeth Borne.
Il faut convaincre tout le monde, il faut bien sûr convaincre les États, et il y a de plus en plus d'États qui disent, comme nous, qu'on veut aller vers la neutralité carbone. Alors c'est un thème qui peut paraître abstrait, ça veut dire qu'on ne doit pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre peut absorber. Et il y a de plus en plus d'États qui prennent cet engagement. Ensuite, les entreprises, je pense qu'elles voient de plus en plus que de toute façon, elles doivent aller dans ce sens. Vous savez, quand vous êtes en Chine, vous voyez que tous les deux roues sont électriques, que de plus en plus de voitures sont électriques, que tous les bus sont électriques.
Et c'est enfin, quand c'est même pas un modèle marché d'économie verte, la
c'est
Chine.
C'est quand même
Elisabeth
un marché
Borne
qui peut intéresser.
Vous en revenez, mais avouez quand même que c'est là aussi l'un des plus grands pollueurs de la planète.
C'est le premier émetteur de gaz à effet de serre.
Des principaux émetteurs de gaz à effet de serre.
Qui est déterminé à inverser sa courbe. Évidemment, l'enjeu, c'est que ce soit le plus vite possible. Et ce que je veux dire, c'est que les marchés de demain, c'est des véhicules qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Et c'est dans toute l'économie, je pense que les entreprises voient de plus en plus qu'on attend d'elles qu'elles nous proposent des solutions qui n'émettent pas de gaz à effet de serre et qui soient aussi respectueuses de la biodiversité.
C'est le retour aussi, Elisabeth Borne, dans l'actualité de la question du glyphosate, rapport parlementaire qui vient d'être rendu public. L'AFP en parle aujourd'hui. Le calendrier prévu pour la suppression du glyphosate sera difficile à tenir et il aura un coût élevé pour les agriculteurs, estiment les parlementaires. Et ils demandent à l'État de préciser rapidement les cultures qui bénéficieront d'une dérogation d'utilisation en 2021. Est-ce que vous pouvez le faire aujourd'hui?
Alors, je pense que ce rapport, il est intéressant parce qu'il pointe que c'est pas en claquant dans les doigts qu'on décide comme ça qu'on arrête le glyphosate, qu'il faut accompagner les transformations, proposer des substitutions, notamment du désherbage mécanique. Donc, on reste évidemment résolu à sortir du glyphosate. Je pense qu'on a des premières filières qui pourront le faire, sans doute plus rapidement que d'autres.
Mais quelles cultures bénéficieront d'une dérogation?
C'est les études qui sont en cours à l'INRA et à l'ANSES, donc je ne vais pas vous répondre sur les cultures qui pourraient bénéficier d'une dérogation. Ce que je peux vous dire, c'est que la viticulture, le président de la République l'avait dit, on souhaite avoir la première viticulture zéro glyphosate, et je pense qu'ils sont vraiment en train d'agir pour que ce soit le cas.
Ça fait 2 ans, en fait, que Emmanuel Macron a annoncé la fin du glyphosate sous 3 ans. Vous êtes un peu endormi sur vos lauriers? Enfin, ça fait qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans?
Non, ça veut dire, vous savez que, enfin, et je pense que c'est important aussi, quand on veut vraiment faire des transitions écologiques, de regarder de quoi on parle. Quand on a un modèle agricole qui a été poussé pendant des années à utiliser des pesticides, du glyphosate, c'est pas d'un claquement de doigts que vous changez de modèle.
Enfin, c'est l'État qui
accompagner.
S'est engagé, Elisabeth
Borne.
Oui,
mais je vous confirme qu'on est déterminé à sortir du glyphosate.
Le rapport dit qu'il est inconscient d'attendre le 31 décembre 2020 pour savoir quel culture.
Le rapport nous dit qu'évidemment, on ne va pas dire la veille pour le lendemain aux agriculteurs d'une filière qu'on arrête le glyphosate dans leur filière.
Il ne faut pas qu'il y ait trop d'exceptions quand même, parce que sinon ça
veut dire qu'il y a plus d'interdiction. Mais je vous confirme que l'objectif, c'est bien de sortir de l'essentiel des usages au 1er janvier 2021 et de tous les usages au 1er janvier 2023.
Il y a aussi une question d'actualité, Europa City, qui était cet immense projet de loisirs, de commerce, qui devait ouvrir en 2027 à Gonesse, dans le Val d'Oise, à 15 km au nord de Paris. Projet donc qui a été abandonné. C'est une décision qui était attendue par beaucoup. Malgré tout, il y a des élus, et notamment Jean-Pierre Blasi, qui est le maire socialiste de Gonesse, qui déclare la chose suivante: notre territoire a subi hier une exécution en règle. Et il parlait donc cette semaine de la difficulté qu'allait rencontrer son territoire maintenant pour créer des emplois, pour imaginer un avenir qui pourrait profiter à l'ensemble de la population. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, je réponds d'abord qu'on met nos actes en cohérence avec nos paroles. Quand on dit qu'il faut sortir d'un modèle de consommation avec des grands centres commerciaux où on se rend en voiture, où on soutient du commerce de masse, plutôt que de permettre aux petits commerces d'exister dans les villes et dans les quartiers, c'est ce qu'on est en train de faire.
Donc il n'y aura plus jamais de grands centres comme ça en France de construire. Ça veut dire ça, ce que
je vous confirme que là, puisque c'était une décision qui relevait de l'État, on met nos actes en conformité avec nos paroles. Ensuite, on est bien conscient, et vous savez, certains nous ont dit oui, c'est facile.
Non, mais une exécution en règle. Les mots sont durs.
C'est une décision qui était difficile parce que c'est un territoire.
Parce qu'on attendait 10 000 emplois.
Il y a des besoins d'attractivité, d'emploi, et clairement, ce territoire, on l'a dit, on ne le laissera pas tomber. Il y a une mission qui a été lancée pour proposer un projet de développement économique alternatif dans ce territoire, et moi je
le
redis, on sera
flou,
à côté
des voisins. Ça reste très flou, il y a un gros doute. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet alternatif ?
Non, mais là aussi, quand on lance la mission, c'est qu'on n'a pas le projet. Mais en tout cas, l'engagement de l'État.
Mais les 80 hectares qui devaient être artificialisés, comme on dit, est-ce qu'ils seront rendus à l'agriculture ?
Mais vous savez, le sujet, il se pose de façon beaucoup plus large. C'est vraiment l'Est du Val d'Oise dans lequel il y a un taux de chômage très important, des gens qui, y compris, ne peuvent pas accéder aux pôles d'emploi comme Roissy, qui sont pourtant pas loin. Donc il y a un travail qui doit se faire sur tout ce secteur de l'Est du Val d'Oise, du Nord de la Seine-Saint-Denis, pour développer l'emploi et l'attractivité. Et ça, on le fera. Mais il fallait prendre cette décision. Ce modèle que porte Europa City n'est pas
compatible. Mais c'est un cas d'école du conflit entre la question sociale, la question économique et la question écologique.
Ça montre que ça n'est pas simple.
Bien sûr.
Ça montre que ça n'est pas simple.
Que c'est une contradiction qu'il faut résoudre.
Que c'est une contradiction qu'il faut dépasser. Et donc, cette décision, je pense qu'elle était indispensable et que maintenant, il faut qu'on montre qu'il y a d'autres solutions pour le territoire.
Et elle est intéressante à observer, en fait, cette décision, parce que ça montre à quel point la politique écologique du gouvernement, malgré tout, avance en zigzag. Parce qu'il y a cette, effectivement, décision-là de stopper ce projet. En même temps, vous rabotez les subventions sur la rénovation thermique.
Mais pas du tout. Non, je vous assure que cette année...
Vous passez de 30% à 15%.
Non, attendez, l'an prochain, on mettra plus de 3 milliards d'euros sur la rénovation thermique, parce que c'est une priorité.
Vous avez gelé
également
la taxe carbone. Enfin, je veux dire, comment... Et donc ça, vous savez,
ça montre... La taxe carbone, c'était un bon exemple, que cette transition écologique, on la fait pas pour les gens, on la fait avec les gens, et qu'il faut trouver le bon chemin. Il faut changer profondément nos modes de production,
enfin,
de consommation.
Avec les gens,
en fait,
avec
la question,
les gens.
C'est comment réussir à rendre Nathalie Saint-Cric, une politique
une
écologique cohérente, en fait. On sent bien que c'est compliqué, on sent bien que c'est
difficile. Je pense que ça serait important qu'on ait un vrai débat de société sur sur ce qu'on veut, sur ce que ça veut dire une société neutre en carbone. Et moi, j'ai demandé, notamment au Conseil national de la transition écologique, qui réunit tous les acteurs, les syndicats, les entreprises, les ONG, les élus, de débattre de ce sujet. Je pense que c'est important de montrer où on veut aller. On sera plus, ça sera plus facile de trouver le chemin si on peut partager le fait que ce qu'on propose, c'est une société différente, mais c'est une société où on vit mieux, où il y a de l'emploi, où on respire un air de meilleure qualité, où on a une alimentation plus saine. C'est ça, la transition écologique.
Nathalie,
juste une question très simple. Sur les arrêtés anti-pesticides, on a l'impression que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux endroits où c'est la même chose.
Alors,
en fonction de la justice. Donc, est-ce qu'il y a un moment donné où c'est erreur en-delà des Pyrénées, hein?
Enfin, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un cadre national. C'est ce qui est en consultation.
Vous êtes plutôt favorable à quoi?
Mais moi, je suis favorable à mettre en œuvre ce qui est proposé dans les textes qu'on a mis en consultation, qui prévoient des distances minimales.
Non, mais d'accord. Mais
c'est quoi les épandages? Petites quand même, ces distances, ces zones tampons, comme on les appelle.
Vous savez, c'est des zones de non-traitement, non, 5 mètres ou 10 mètres, selon le type de culture. Et puis, le combat, c'est de réduire l'usage des pesticides et d'accompagner les agriculteurs pour le faire.
Vous êtes d'accord que la question climatique, la question environnementale est urgente?
On est face
à l'urgence.
Oui.
Et on a le sentiment, à vous entendre, que vous avez le temps, qu'il faut encore étudier, qu'il faut encore regarder les choses avant de pouvoir décider de quelle politique écologique, on va décider de quelle politique écologique on va mettre en œuvre, quelle politique écologique on va mettre en œuvre dans les années qui viennent.
Je crois pas avoir dit ça, vous savez, je crois avoir dit qu'il faut.
C'était un peu la petite musique, et je comprends
qu'il faut au contraire des décisions.
La scientifique que vous êtes souhaite avoir des éléments tangibles.
Il faut des décisions très rapides sur, par exemple, le changement des chaudières polluantes, sur l'arrêt des plastique à usage unique, sur la mise en place de zones à faible émission pour avoir moins de pollution dans les villes, sur la multiplication par 3 du vélo. Il faut ces mesures rapides, urgentes, efficaces pour accompagner les Français. C'est la prime à la conversion. 1 million de Français auront pu changer leur voiture avec une aide de l'État pour passer à une voiture qui pollue moins et qui consomme moins, qui pèse moins sur le budget. Donc il faut à la fois ces décisions rapides et puis en même temps, il faut engager des transformations profondes, les engager le plus vite possible, mais les faire aussi avec tout le monde, avec les entreprises, avec les salariés, avec les élus.
Françoise.
Comment vous réagissez à cette mobilisation des jeunes, notamment autour de Greta Thunberg? Est-ce que c'est pour vous un aiguillon où vous dites, mais en fait, on risque d'être dépassé par une demande qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que les jeunes sont beaucoup plus pressés que les politiques qui sont en place.
Que les gens se mobilisent pour le climat et les jeunes, je trouve forcément que c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui nous donne de la force pour agir. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont anxieux, inquiets du monde qu'on leur prépare. Et c'est bien pour ça qu'il faut aussi mener des transformations profondes et qu'il faut trouver un chemin. Et c'est pour ça que
Est-ce
je suis là pour trouver
leur
un chemin. Mais évidemment que si on ne fait rien, ça serait absolument dramatique. Tous les rapports qui sortent du GIEC nous disent que c'est pire que ce qu'on pensait, que les océans montent plus vite que
la catastrophe a commencé.
Mais, et que donc il faut absolument agir avec force et maintenant.
Vous ne croyez pas à la thèse de la collapsologie, celle qui estime que la fin du monde est véritablement imminente, quand la fin du monde, en tout cas un monde habitable pour les hommes?
Je pense que si on ne fait rien, c'est ce qui pourrait arriver, et c'est bien pour ça qu'il faut agir avec force, qu'il faut agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut aussi protéger la biodiversité, parce qu'on a aussi des espèces qui disparaissent de plus en plus vite, et donc évidemment, il faut agir. Moi, je suis convaincue qu'on peut avoir une société dans laquelle on arrête d'émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la planète peut absorber, dans laquelle on est respectueux de la biodiversité et dans laquelle on vit bien avec un air plus sain, une alimentation de meilleure qualité, en se déplaçant avec des transports propres, en habitant dans des logements qui sont mieux isolés et donc il y a plus de confort et ça pèse moins sur le pouvoir d'achat. Donc je suis convaincue que le chemin, il existe.
Il reste quelques secondes, Françoise.
Beaucoup de sujets ont concerné l'agriculture. La FNSEA, les jeunes agriculteurs, dénoncent l'agribashing. Vous êtes sensible à leur petite musique ou vous vous dites au fond non, c'est de la communication pour ne rien changer? Comment vous situez-vous?
Elisabeth Borne.
Je pense que les agriculteurs qui se sentent pointés du doigt peuvent trouver ça injuste, parce que je pense que ça n'est pas par plaisir qu'ils utilisent des pesticides qui sont d'abord dangereux pour eux. Et donc je pense qu'il faut résolument les accompagner pour un modèle d'agriculture plus durable et en particulier pour se passer de ces pesticides. Mais je pense que c'est aussi ce qu'ils veulent.
On va bien quand on est à la tête du ministère de l'angoisse? De toutes les angoisses?
Mais je pense qu'on a une impérieuse nécessité de montrer qu'il y a un chemin et qu'on peut effectivement
faire cette transition. Donc vous restez
optimiste? Mais moi, je reste absolument optimiste. Je suis convaincue que l'écologie, la transition écologique, c'est vivre mieux demain.
Merci Elisabeth Borne d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche, l'émission se termine. Merci à toutes les trois, merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Paul. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.